Donc j'ai intitulé cette communication « Les femmes des combattantes comme les autres ». Alors l'étude des parcours des femmes combattantes permet de s'interroger sur la place des femmes dans leur société et dans le déroulement de la guerre, mais elle permet aussi de mettre en exergue certaines dynamiques du conflit. En ce sens, elle apporte bien sûr des choses essentielles aux études de genre ou aux études sur les femmes, mais elle enrichit aussi les études sur la guerre, notamment parce qu'elle permet d'en révéler certains traits, notamment l'affaiblissement, voire la disparition de la frontière entre espace public et espace privé. Cela apparaît très bien quand on étudie le parcours des femmes, de certaines femmes dans certains conflits, et aussi parce qu'elle éclaire les choix ou les stratégies de recrutement des organisations combattantes pendant le conflit. Donc, à l'origine, je fais cette présentation sur les femmes, mais je m'intéresse plutôt aux conflits et aux sorties de conflits. Et en m'intéressant aux conflits et aux sorties de conflits, j'ai été amenée à m'intéresser au parcours de certaines femmes combattantes ou d'ex-combattantes. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est le parcours d'une membre de l'aile armée de l'ANC et ainsi qu'une membre du FLN. Je vais rapidement vous donner quelques éléments de leur parcours et ça permettra au fond de questionner les voies de l'engagement, leur mode de participation au combat et aussi d'interroger leur statut d'ex-combattante dans la société d'après-conflit. S'interroger sur le type de rétribution dont elles écopent après le conflit ou le coût aussi de leur participation au conflit, parce que bien souvent les choses sont assez ambivalentes. Alors, je vais vous parler donc de deux parcours qui sont bien sûr spécifiques et uniques, mais qui me paraissent tout de même emblématiques. Je vais vous parler d'une certaine Catherine, née en 1953, qui est sud-africaine, qui s'est engagée dans l'ANC. Et je vais vous parler de Louisette Irilaris, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est algérienne, qui est née en 1938 et qui était au sein du FLN. Alors, Catherine, je vous brosse, hein, son parcours a très grand trait, on pourra revenir en détail par la suite si vous le souhaitez. Elle s'engage au sein de l'ANC, notamment parce que son père est déjà engagé. C'est lui qui la sensibilise à la politique. Il part en exil, mais il laisse cet héritage qui est un peu controversé au sein de la famille parce que la mère de Catherine considère que le père les a laissés tomber. Et donc, elle est dans son travail de couturière à l'usine, etc. Elle est parmi les ouvrières conscientisées qui incitent les autres à faire la grève. Et elle s'engage de plus en plus. Alors, elle s'engage de plus en plus, notamment, sans doute, notamment parce que sa vie de couple ne fonctionne pas très bien. Elle a un premier mariage, elle a deux enfants, et juste après la naissance de son deuxième enfant, son mari se suicide. Elle se remarie par la suite, mais son mari n'est pas tout à fait charmant, et ce qui va l'inciter à investir de plus en plus de temps et d'énergie au sein de l'organisation de l'ANC. Donc elle est en charge de progressivement, elle devient en charge de l'organisation des réseaux de combattants clandestins, des membres de l'ANC qui sont infiltrés dans le pays. Donc elle s'occupe à la fois du recrutement, de la logistique. Elle assure l'interface entre l'intérieur, entre l'Afrique du Sud à l'intérieur et le commandement à l'extérieur. Elle fait l'expérience de la prison où elle subit des sévices, où elle subit la torture. Elle reprend ensuite, elle est libérée, elle reprend du service. Et finalement, elle s'enfuit dans la précipitation parce que elle se retrouve mêlée à une histoire, une sombre histoire de règlement de compte à l'intérieur de l'ANC, dont Winnie Mandela est partie prenante. Winnie Mandela, l'équipe de football aurait visiblement éliminé un combattant de l'extérieur que Catherine s'était chargée de faire venir en Afrique du Sud. Et ayant connaissance de certains faits, elle comprend qu'elle est la prochaine sur la liste et elle s'enfuit précipitamment à l'étranger en laissant un de ses fils avec son mari. Elle prend le plus petit, ses autres enfants sont déjà à l'étranger. Donc elle reste en Afrique australe, à Lusaka, elle revient au début des années 1990, elle rentre dans l'armée sud-africaine et elle fait preuve de beaucoup de volonté pour s'adapter à cette armée, ce qui n'est pas évident puisque vous savez peut-être que ce qu'on a fait, c'est qu'on a... l'armée sud-africaine, l'ancienne armée sud-africaine a absorbé en fait les anciens groupes de combattants non conventionnels, ce qui a créé évidemment certaines tensions entre les anciens et les nouveaux soldats. Donc voilà, donc elle subit cet entraînement physique. Alors bon, elle a déjà 45 ans, elle passe outre les vexations des officiers blancs, etc. Elle croit à la nouvelle Afrique du Sud, elle croit à la réconciliation, elle croit au pardon. Elle dépose à la commission Vérité et Réconciliation une plainte pour la mort de sa voisine qui avait assisté à l'assassinat de ce militant armé de l'ANC. Elle éprouve une culpabilité pour la mort de sa voisine puisqu'elle était dans ce réseau et elle, au fond c'est parce que certains militants venaient la voir qui se sont trouvés tués près de sa maison et que la voisine a assisté à l'assassinat et donc, comme elle en savait trop, s'est fait éliminer. Voilà, elle a la charge de certains de ses enfants, notamment ce fils qu'elle a laissé, qui est devenu drogué, violent, etc., et qui lui reproche de l'avoir abandonné. Bon, voilà, plusieurs de ses enfants, deux de ses enfants meurent du sida, la responsabilité de ses petits-enfants. Enfin, elle est dans une lutte quotidienne pour assurer une vie décente aux siens. Et elle apparaît comme un peu emblématique. C'est-à-dire qu'en Afrique du Sud, on voit des femmes qui sont très abîmées par la lutte, mais on voit aussi des femmes, ce type de femmes, qui portent un peu le monde entier sur leurs épaules. Et dans l'entourage, les hommes semblent avoir démissionné. Que ce soit les maris ou les fils, en l'occurrence. Alors, quant à Louisette Thierry-Larise, elle est née en 1938. Elle faisait aussi partie d'une famille militante. Son père, mais aussi ses frères et sœurs. Donc, elle s'est retrouvée assez naturellement partie prenante au combat. Donc, c'est une militante active, un agent de liaison qui transporte des armes, etc., qui à un moment donné est recherchée et donc à ce moment-là elle monte au maquis, elle rejoint des hommes au maquis, elle est la seule femme au maquis. Elle est finalement arrêtée lors d'un accrochage avec l'armée française. Elle est interrogée, torturée, elle est violée, elle est ensuite emprisonnée avec sa mère et elle ressort. Elle ressort de prison à la fin de la guerre, où là, elle n'accepte pas la tradition familiale. Son père l'avait promise à plusieurs combattants du FLN, mais elle n'accepte pas. Elle fait un mariage d'amour avec un frère d'armes. Et elle reste au sein du FLN. Elle a un poste dans la haute administration. Elle est à l'intérieur du système FLN, même si elle garde une certaine liberté de parole et qu'elle adopte une parole parfois assez critique, et c'est sans doute ce que son statut de Mujahida l'autorise à faire. Son statut, son discours, sa liberté, la liberté qu'elle a, ne sont pas du tout représentatifs de la condition de la femme en Algérie. Et elle révèle donc au début des années 2000, en 2002 je crois, le viol qu'elle a subi dans un documentaire sur France 2 qui est réalisé par Florence Beuger. Voilà, donc je vous ai évoqué ces parcours. Maintenant, je voudrais vous parler d'abord des motivations et des voies de l'engagement dans un premier temps. Alors, les motivations et les voies de l'engagement pour les femmes sont-elles spécifiques? Au fond, est-ce qu'il s'agit de l'adhésion au nationalisme ou de, là, en l'occurrence, à la révolte contre le colonialisme? Au fond, on peut considérer que, il me semble tout à fait indispensable d'adopter une lecture qui attribue aux femmes à peu près les mêmes motivations que les hommes, un cheminement personnel qui renvoie à la fois à des convictions, qui renvoie à l'entourage familial ou amical, et qui renvoie aussi à l'expérience de l'humiliation, puisqu'on sait bien que ces expériences personnelles de l'humiliation, de l'oppression sont décisives dans les processus d'engagement. Alors, beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur l'engagement féminin dans des mouvements de rébellion montrent quelquefois que la révolte, ou l'adhésion l'adhésion politique ou idéologique croise aussi une révolte féministe. Là, dans les deux cas, dans celui de Catherine et dans celui de Louisette, c'est pas du tout présent. Alors, elles peuvent avoir certaines convictions féministes, mais c'est pas du tout présent dans le processus d'engagement. En revanche, il y a certainement une dimension d'affirmation de soi, de conquête d'une autonomie, d'un rôle, d'un statut à travers l'engagement. Mais bien sûr, cette dimension n'est pas spécifique à l'engagement féminin. Ce n'est pas du tout une exclusive féminine. Des hommes aussi s'affirment vis-à-vis de leur famille, développent leur personnalité et s'affirment à travers un cheminement, un engagement. Cela dit, ce qu'on retrouve chez Catherine, c'est évidemment, il y a cette question de la mésentente avec le mari ou du mari désagréable et violent qui s'en prend notamment à ses enfants, les enfants qu'elle a du premier mariage. Donc là, on serait plutôt dans un fonctionnement à la Alfred Hirschman où alternance entre bonheur privé et action publique qui explique les intermittences de l'engagement social et politique. Il me semble que c'est plutôt à interpréter en ce sens qu'à interpréter dans un sens d'affirmation des droits féminins. Alors, ce qu'on peut se poser comme question, c'est que souvent ce qui est relevé par certains analystes, c'est la surdétermination du privé chez les femmes. Alors, c'est pas forcément des analyses évidemment d'auteurs féministes, mais effectivement, là, on a dans les deux cas l'exemple du père, l'héritage, la poursuite d'un engagement familial. Dans d'autres cas que j'évoque pas ici, il y a des femmes aussi qui suivent leurs compagnons, qui suivent leur mari. Cela dit, évidemment, ces rencontres sont déterminantes pour les femmes comme pour les hommes. Les femmes suivent peut-être davantage des proches dans des sociétés où elles évoluent davantage dans l'espace privé que dans l'espace public. Leur réseau de connaissances est souvent, du coup, plus étroit. Et alors, sur cet effet privé-public, on remarque que chez les femmes, l'apparition dans le récit du combat, l'apparition de la sphère privée est plus présente. Alors, il me semble qu'il y a d'abord un effet de récit, c'est-à-dire que Les interviews amènent aussi plus souvent les femmes à les interroger sur leur famille, c'est-à-dire que on en vient toujours à leur demander, qu'elles soient combattantes ou pas d'ailleurs, ce qu'elles ont fait de leurs enfants pendant qu'elles n'étaient pas au foyer, pendant qu'elles travaillaient ou pendant qu'elles combattaient. C'est quand même une question presque inévitable. Donc il me semble qu'il y a un biais dans l'entretien qui est posé par l'intervieweur. Et puis, effectivement, les femmes ont bien souvent la charge du foyer, des enfants, etc. Et donc, sont quelquefois contraintes d'articuler leur engagement politique, voire leur engagement armé, avec la charge des enfants. Donc, cela apparaît, et de toute façon, même si elle ne l'évoquait pas elle-même, au fond, on le rappelle. Soit l'intervieweur le rappelle, soit la société se charge aussi de lui rappeler. Mais voilà, sur cette question du privé, sur cette question des motivations subjectives de l'engagement féminin, voilà, il y a Pénélope Larzillière qui a écrit sur les attentats suicides et qui montre que lorsque il y a beaucoup d'études sur les attentats suicides, notamment palestiniens, qui font appel à une analyse en termes de choix rationnels et qui manipulent beaucoup de données en termes de calcul de coûts et bénéfices, hein, qui sont dans cette veine rationnelle. Et puis alors, dès qu'on parle des attentats suicides féminins, alors là, tout d'un coup, on revient à la question des motivations personnelles, de la femme amoureuse trahie, de la femme divorcée, de la femme traître, etc. etc. Donc, voilà, il me semble que c'est un regard qui est apposé de l'extérieur, qui traduit pas forcément très fidèlement la réalité. Alors, deuxième point que je vais aborder maintenant, c'est les femmes au combat. Alors, est-ce que, à travers les parcours que j'ai évoqués, est-ce qu'on trouve des tâches spécifiquement féminines ? Alors, ces femmes ont des rôles un peu, qui sont difficiles à définir tout à fait strictement. Enfin, ce sont plutôt des agents de liaison qui commencent par transmettre des messages, qui transmettent aussi des armes. Qui ravitaillent, qui hébergent des combattants. Donc elles ont plutôt ce rôle absolument essentiel, mais en même temps quand même un second rôle qui n'est pas sur le devant de la scène du combat. Catherine n'a pas porté les armes en Afrique du Sud, mais des combattantes de l'ANC ont porté les armes. Louisette n'est pas très claire sur le fait de savoir si elle a porté des armes. Bon, elle n'est pas restée de toute façon très très longtemps au maquis. Généralement, les femmes au sein du FLN ne portaient pas les armes, même si elles étaient au maquis. Au maquis, elles assumaient des rôles d'organisation et de logistique et des rôles d'infirmières. Cela dit, les femmes au sein du FLN ont posé des bombes, hein, celles qu'on appelle les bombistes. Et alors, là, il y a vraiment ce stéréotype culturel sur lequel le FLN a joué, qu'on retrouve dans d'autres organisations, les stéréotypes culturels et les stéréotypes de genre, puisque le FLN a recruté, notamment pour poser des bombes ou pour passer des messages, des femmes qui pouvaient passer pour des Européennes, qui étaient pâles de teint et qui étaient... de cheveux, de couleur de cheveux, qui passaient pour des Européennes, qui étaient habillées qui étaient habillées comme des Européennes, et c'est notamment là-dessus, afin de déjouer la méfiance de l'ennemi, tant auprès des militaires que auprès des cibles, que on a donc joué sur ces stéréotypes féminins et culturels, afin de les retourner contre l'adversaire. Donc il y a ce paradoxe de la violence brutale. Qui tranche avec une vision traditionnelle de la femme, puisqu'on retourne ces stéréotypes de genre, innocence, éventuellement la séduction, et sur l'apparence de l'Européenne libérée. Alors, ce qu'on observe en Afrique du Sud, c'est très peu évoqué par les Algériennes, relation homme-femme au combat. Hein. Généralement, lorsque les femmes algériennes parlent de la manière dont s'est déroulé le combat en Algérie, il n'y a aucune critique qui est formulée à l'égard des frères d'armes. Tout s'est très bien passé. En revanche, en Afrique du Sud, on observe que le combat, les années de combat ont été une occasion de... Enfin, ont accompagné un processus de durcissement des relations entre les hommes et les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui se sont engagées dans l'ANC, beaucoup de jeunes dans le sillage des émeutes de Soweto, qui sont partis en exil et qui ont d'ailleurs que l'ANC a eu du mal à absorber parce qu'il y a eu un afflux assez soudain de recrues et qui s'attendaient à combattre, qui n'ont pas forcément pu combattre, qui sont partis donc, qui ont été installés dans des camps, qui ont passé des longues années, voire des décennies d'exil dans des camps d'entraînement, qui ont donc été séparés de leur famille et enfin qui ne s'attendaient pas du tout en fait à ce genre de vie de combattant telle qu'elle s'est déroulée. Donc les conditions de vie étaient évidemment difficiles dans les camps. Il y a eu très peu de combats, donc beaucoup de frustration. Il y a eu aussi des abus contre les recrues, notamment parce que on faisait la chasse aux collaborateurs et qu'il y a eu des moments un peu, comme dans d'autres mouvements de libération, un peu des moments d'extrême méfiance vis-à-vis de la présence des collaborateurs. Il y a eu aussi des agressions contre les femmes, des viols, dont on a parlé un petit peu, mais pas énormément. Et puis, il y a évidemment des relations amoureuses et matrimoniales qui se tissent en exil, mais qui sont instables et qui semblent être rarement favorables aux femmes, bien qu'elles soient minoritaires. Il ne semble pas que leur faible nombre numérique ait permis aux femmes de retourner, de prendre avantage de cette situation du déséquilibre numérique. Voilà. En revanche, en Algérie, lorsque les femmes sont dans les maquis ou quand elles sont dans les organisations clandestines urbaines comme à Alger, les rôles sont différents selon qu'elles sont maquis ou selon qu'elles sont en ville, notamment à Alger. Dans les maquis, elles ont été surtout infirmières et s'occupaient des tâches de logistique. Disons que l'honneur de ces femmes était pris en charge par l'organisation du FLN qui garantissait au fond aux parents voilà, que leur fille ne serait pas une fille perdue. Il y a eu des mariages qui ont été organisés, pas toujours. Mais cela dit, ça n'empêche que certaines familles ont considéré que leurs filles qui s'engageaient au sein du FLN étaient des filles perdues, notamment des filles qui ont posé des bombes. Parce que, alors, notamment justement pour celles qu'on appelle les bombistes, l'engagement en fait était extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'elles étaient contactées par le FLN, notamment à cause de leur physique, et elles passaient très vite à l'action, sans qu'il y ait vraiment une socialisation politique qui ait eu le temps de se faire. Voilà, donc les femmes au combat les ont exposées, évidemment, aux violences des forces de sécurité, que ce soit en Afrique du Sud ou que ce soit en Algérie. Donc il y a eu des abus sexuels et des viols. On en a un petit peu parlé à la commission Vérité et Réconciliation, mais pas énormément. Et en Algérie, on n'en a pas du tout parlé. Seule Louisa Thierry-Larise a révélé ce viol donc, au début des années 2000. Alors, elle a attendu en fait que ses parents ne soient plus présents. Elle a attendu que son père meure. Et elle a attendu, sa mère était en fait dans une confusion mentale à la fin de sa vie, parce que sa mère qui lui avait demandé de se taire. Elle rejoint sa mère en prison, sa mère lui demande si tout va bien et si elle a pu garder son honneur. Elle lui répond que non, elle lui dit tu le gardes pour toi. Donc cette injonction au silence est faite par la mère, et bien sûr, Louisa Thierry-Larise ne veut surtout pas que son père le sache. Et donc, elle a fait cette révélation. Le documentaire est passé sur France 2, évidemment. Les Algériens étaient au courant. Et alors son mari l'a toujours soutenue. Son mari était au courant. Son mari l'a soutenue. Alors, en revanche, au moment de sa révélation, sa fille commence immédiatement une dépression. Et son fils lui dit qu'elle aurait mieux fait de se taire. Et Louisa Thierry-Larise a l'impression de payer un prix très fort aussi, un prix social, parce que, alors d'abord parce qu'elle s'attendait à ce que sa déclaration soit suivie d'autres prises de parole. Et elle a été très déçue que personne ne prenne la parole après elle. Et puis, elle a eu l'impression, réelle ou pas, enfin sans doute qu'elle a ressenti peut-être plus fortement que ce n'était dans la réalité, c'est ce qu'elle dit dans un second temps, d'avoir été montrée du doigt dans la rue, de subir une forme d'opprobre public après cette révélation. Voilà, troisième et dernier point que je voulais aborder.
Donc rapidement.
D'accord. C'est donc le statut des ex-combattantes. Hein. Donc, il y a à la fois des formes de rétribution et puis.
Jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à 35 ? On a commencé à 5 ?
Ouais, ouais. Donc, à la fois des rétributions, mais aussi un coût social de leur participation. Alors, en Afrique du Sud, on a un contexte post-apartheid qui est en continuation avec ce qui précède, hein, une grande violence des rapports sociaux et interpersonnels. Et il semble que pour des hommes qui ont connu le combat, l'humiliation, s'affirmer en tant qu'homme permet notamment, s'affirmer en tant qu'homme passe notamment par la violence à l'encontre des femmes ou à l'encontre de leurs proches, de leurs enfants. On a beaucoup de familles éclatées, de familles monoparentales, qui est le résultat notamment de la politique d'apartheid qui a séparé les familles, qui a été aggravée par les conditions de la lutte menée par les mouvements de libération, qui a entraîné à la fois la répression et l'exil. Voilà, on a un très haut taux de viol en Afrique du Sud, dans un contexte de pandémie du sida. Voilà, souvent les femmes, enfin une partie des femmes qui reviennent de combat sont à la fois marquées par leur expérience très dure dont elles souffrent, mais d'une certaine manière comme les hommes, parce qu'elles rentrent chez elles, elles sont toujours pauvres, elles n'ont pas rapporté d'argent. Elles n'ont pas de mari, elles ont été souvent quittées par leurs conjoints qui ont été plus stratégiques qu'elles et ont essayé de trouver un meilleur parti. Elles sont évidemment désocialisées et leurs familles ne les comprennent pas toujours. Donc on a ce modèle, un peu cette figure de la femme ex-combattante, un peu devenue sauvage et considérée comme telle par les camarades de lutte masculins qui estiment que ces femmes ont perdu toute féminité et ne constitueraient pas d'agréables compagnes. Donc on a cette figure aussi un peu qui est celle un peu aussi de Winnie Mandela, de qui au départ est une combattante évidemment très valeureuse, qui fait face au harcèlement des services de sécurité, etc. Et puis cette figure qui se retourne, puisque après l'image de Winnie Mandela est associée bien sûr à beaucoup de cruauté, avec cette formation de l'équipe de football de Winnie Mandela qui commet des meurtres et des tortures. Voilà, en Algérie, malgré la participation significative des femmes à la lutte contre la puissance coloniale, celles-ci ont été exclues des positions politiques de pouvoir et plus largement de l'espace public dans l'Algérie indépendante. Leur statut s'est dégradé puisque le code de la famille promulgué en 1984 les confine à un statut de mineur. Alors, les Moudjahidates, enfin en tout cas celles qui sont connues, celles d'Alger notamment, ou celles qui ont réussi à acquérir une certaine notoriété, s'imposent, elles, comme des fortes personnalités qui prennent éventuellement la parole, etc., qui mettent en avant leur statut de combattante et qui, bien souvent, d'ailleurs, relèguent à un second plan leur féminité. Elles ont à cœur de montrer qu'elles ont lutté comme des hommes, qu'elles ont arraché l'indépendance comme les hommes, hein, qu'elles ont arraché leur place aussi, comme elles ont arraché l'indépendance de l'Algérie, selon les termes courant utilisé par les militants du FLN. Voilà, mais cet esprit d'affirmation très fort ne reflète pas du tout la condition féminine en Algérie. C'est un peu un statut exceptionnel fondé sur la légitimité du combat qui est à l'image, au fond, du statut des combattants en Algérie. Voilà, donc en conclusion, à travers ces exemples, j'ai bien sûr pas fait le tour des positions possibles des femmes en tant que combattantes. J'ai voulu en donner quelques exemples. Alors, il me semble que les obstacles pour que les femmes soient des combattantes comme les autres, citer très rapidement deux choses. Il me semble qu'au fond, la question de la gestion de l'économie affective et sexuelle dans la guerre représente un premier problème. Au fond, les organisations armées ne savent pas très bien quoi faire des femmes, notamment parce que ça suppose donc la mixité et ça suppose des relations affectives et sexuelles qui sont compliquées à gérer. Et le deuxième obstacle, un obstacle naturel bien sûr, mais qui est un obstacle qui est brandi à l'intérieur des sociétés, que ce soit par les organisations combattantes ou que ce soit par l'entourage social, c'est la question de la maternité. Au fond, cette question de la maternité revient régulièrement à la figure des femmes, c'est-à-dire que si elles ont combattu, qu'elles ont délaissé leur progéniture, elles sont considérées comme des mauvaises mères, leurs enfants ou d'autres dans leur entourage se chargent de les faire culpabiliser. Et pour Catherine, la Sud-Africaine, cette question lui est revenue en pleine figure puisque elle doit s'occuper d'un fils extrêmement devenu totalement asocial, drogué, violent et qui ne cesse en fait de lui reprocher cet abandon entre guillemets.